Annoncé depuis début avril, le développement de l'application Stop Covid devait être débattu avant-hier à l'Assemblée. Pourtant, face à plusieurs incertitudes, Édouard Philippe a préféré reporter le vote à une date ultérieure. Cette application est destinée à alerter les personnes ayant côtoyé un malade atteint du Covid-19 afin de casser les chaînes de transmission du virus. Bonjour Jean-Marc Manac.
Bonjour.
Vous êtes journaliste d'investigation à Next Impact, un média qui traite principalement des enjeux de l'informatique et des nouvelles technologies. Quel regard portez-vous sur le débat et les différentes polémiques qui ont entouré l'application Stop Covid ?
Assez consterné en fait, parce que c'est un petit peu comme si tout le monde avait peur de la seringue alors qu'on ne sait même pas s'il y a un vaccin. C'est-à-dire que tout le monde ne parle que de l'application Bluetooth, alors que ce n'est pas du tout de ça dont il est question. Le contact tracing, c'est quelque chose qui existe depuis des décennies en matière de santé publique. C'est quand il y a un virus quelque part, on envoie des brigades de médecins, de personnel soignant, pour identifier les personnes qui ont été au contact de personnes contaminées, ce qu'on appelle un cas contact.
D'accord.
Ça pour enrayer la progression de la pandémie. Et donc ça s'est fait dans les années 50, 60, 70 pour enrayer la variole. Ça s'est fait pour enrayer Ebola. Il n'y avait pas de Bluetooth, là-bas en Afrique. Et le problème, c'est que depuis le coronavirus, on a associé contact tracing avec l'application Bluetooth. Alors que le contact tracing, c'est pas du tout ça.
L'argument qui est invoqué, pardonnez-moi Jean-Marc Manac, l'argument qui est invoqué consiste à dire, vous connaissez les personnes de votre entourage, donc les cas contact dans votre vie quotidienne, mais pas forcément celles que vous avez croisées à l'occasion, je ne sais pas moi, d'un voyage dans les transports en commun ou d'un achat dans un supermarché.
Tout à fait. Alors c'est effectivement pour ça que l'application a été pensée, sauf que à Singapour, là où ils ont fait Trace Together, la première application de contact tracing, la première application téléphonique de contact tracing, ils ont bien expliqué à Singapour que on déploie d'abord des moyens humains pour faire du contact tracing, pour effectivement identifier les amis, les proches, les personnes dont on se souvient qu'on a rencontré, mais que on ne déploie l'application téléphonique que en complément pour effectivement permettre d'identifier les autres personnes qu'on a croisées au magasin, dans un bus et dont on ne connaît pas l'identité. Et on a bien, là-bas, ils ont bien expliqué aux gens en quoi consistait le contact tracing. Sauf qu'en France, personne n'a expliqué. C'est-à-dire que ni les autorités publiques n'ont expliqué ce que c'était que le contact tracing, ni les journalistes. Ce qui fait que tout le monde pense que le contact tracing, c'est une application Bluetooth. Alors que justement, ça n'a rien à voir. Et le problème se double du fait que, aujourd'hui, on ne sait toujours pas si ça va fonctionner. C'est-à-dire que ça repose sur une technologie, le Bluetooth, qui est approximative. C'est-à-dire que le Bluetooth permet de mesurer la proximité d'un téléphone, sauf que c'est très approximatif. C'est pas comme le GPS, et même le GPS lui-même est aussi également un petit peu approximatif. Et donc on ne sait pas exactement si ça va fonctionner, et le fait est que à Singapour, ben on n'a toujours pas les résultats, et on sait toujours pas si ça a fonctionné là-bas. Et puis ça se double de plein d'autres problèmes, notamment le fait que, par défaut, la quasi-totalité des téléphones iPhone et une bonne partie des Android tuent le Bluetooth quand c'est en tâche de fond. C'est que pour que l'application marche, c'est ce qu'ils ont connu à Singapour, il fallait avoir le téléphone dans la main, allumé, avec l'application ouverte, et surtout pas que ça se passe en tâche, enfin que ça passe en tâche de fond et que le fond d'écran s'active ou que le téléphone s'éteigne.
Tâche de fond, c'est lorsque le téléphone est endormi, disons, en veille.
Voilà.
Mais Jean-Marc Manac, par exemple, en Corée, qui est présenté comme un pays high-tech, je parle évidemment de la Corée du Sud, a-t-on utilisé une telle application?
Non. Là-bas, ils ont déployé 20 000 contact tracers. Ils ont demandé aux compagnies téléphoniques de géolocaliser tous les endroits où les 15 jours avant la détection du fait que la personne était contaminée, donc pour repérer tous les endroits par où étaient passés tous les détenteurs de téléphones portables qui avaient été contaminés. Ils ont ensuite fait des réquisitions policières pour avoir accès aux caméras de surveillance et ils ont demandé aux banques d'envoyer tous les relevés bancaires pour savoir là où ils avaient payé. Donc vraiment comme une enquête policière.
Donc c'est une vision assez policière de la lutte contre l'épidémie.
Et là où ils ont eu une application Bluetooth, c'est que les personnes qui étaient mises en quarantaine parce qu'elles étaient Covid positives avaient l'obligation d'installer une application avec une géolocalisation GPS pour s'assurer qu'elles ne sortaient pas de chez elles. Et si elles sortaient de chez elles avec le téléphone portable ou si le téléphone s'éteignait, la police intervenait dans les quarts d'heure. Donc là, c'était vraiment une vision policière.
Bon, ce que vous êtes en train de dire, Jean-Marc Manac, c'est que finalement, cette application Stop Covid, elle est là pour pallier le manque d'enquêteurs, ces brigades Covisan par exemple, dont on a parlé sur l'antenne de France Culture, eh bien, elles peuvent être remplacées par une application à ceci près qu'on ne sait pas si cette application, quand bien même serait-elle autorisée, eh bien, elle fonctionnerait et donnerait satisfaction.
C'est pas tant pour pallier, c'est pour augmenter, c'est pour améliorer le travail des contact tracers, de ces fameuses brigades que le Premier ministre a commencé seulement à évoquer il y a deux jours. Le problème, c'est que Monsieur Delfraissy, donc le président du Conseil scientifique, le 15 mars dernier, a expliqué qu'il faudrait idéalement 30 000 personnes pour faire du contact tracing en France. Et depuis, on a le droit que à des tribunes pour ou contre le Bluetooth, et on n'a aucun débat. On a eu une tribune dans Libération ce week-end qui demandait urgemment des personnes pour faire du contact tracing humain, mais dans son discours à l'Assemblée, le Premier ministre n'a pas dit combien il y aurait de personnes pour faire du contact tracing. En Allemagne, ce week-end, Angela Merkel a annoncé qu'il y aurait 20 000 personnes. Mais si on n'a pas des dizaines de milliers de personnes pour faire du contact tracing, ça ne servira à rien. Et c'est ce qu'avait dit M. Delfraissy quand il a été auditionné au Sénat. Il a dit si l'application Bluetooth ne servira à rien si on n'a pas des brigades de contact tracing. Donc là, on sait depuis ce week-end, depuis le discours à l'Assemblée, on sait qu'il y aura des brigades d'enquêteurs dans les départements, mais on ne sait toujours pas qui et on ne sait pas combien. Et donc, si on ne sait pas qui et on ne sait pas combien, eh ben, l'application Bluetooth... Oui.
Mais justement, Jean-Marc Manac, on a entendu qu'il y avait un différend entre la France et l'Allemagne. En quoi consiste-t-il, ce différend ?
Grosso modo, il y a deux façons de procéder. Il y a la proposition qui est faite par un certain nombre de s'éteignait, la police intervenait dans les quarts d'heure. Donc là, c'était vraiment une vision policière.
Bon, ce que vous êtes en train de dire, Jean-Marc Manac, c'est que finalement, cette application Stop Covid, elle est là pour pallier le manque d'enquêteurs, ces brigades Covisan, par exemple, dont on a parlé sur l'antenne de France Culture, eh bien, elles peuvent être remplacées par une application à ceci près qu'on ne sait pas si cette application, quand bien même serait-elle autorisée, eh bien, elle fonctionnerait et donnerait satisfaction.
C'est pas tant pour pallier, c'est pour augmenter, c'est-à-dire pour améliorer le travail des contact tracers, de ces fameuses brigades que le Premier ministre a commencé seulement à évoquer il y a deux jours. Le problème, c'est que Monsieur Delfraissy, donc le président du Conseil scientifique, le 15 mars dernier, a expliqué qu'il faudrait idéalement 30 000 personnes pour faire du contact tracing en France. Et depuis, on a le droit que à des tribunes pour ou contre le Bluetooth, et on n'a aucun débat. On a eu une tribune dans Libération ce week-end demander urgemment des personnes pour faire du contact tracing humain, mais dans son discours à l'Assemblée, le Premier ministre n'a pas dit combien il y aurait de personnes pour faire du contact tracing. En Allemagne, ce week-end, Angela Merkel a annoncé qu'il y aurait 20 000 personnes. Mais si on n'a pas des dizaines de milliers de personnes pour faire du contact tracing, ça ne servira à rien. Et c'est ce qu'avait dit M. Delfraissy quand il a été auditionné au Sénat. Il a dit l'application Bluetooth ne servira à rien si on n'a pas des brigades de contact tracing. Donc là, on sait depuis ce week-end, depuis le discours à l'Assemblée, on sait qu'il y aura des brigades d'enquêteurs dans les départements, mais on ne sait toujours pas qui et on ne sait pas combien. Et donc si on ne sait pas qui et on ne sait pas combien, eh ben, l'application Bluetooth... Oui.
Mais justement, Jean-Marc Manac, on a entendu qu'il y avait un différend entre la France et l'Allemagne. En quoi consiste-t-il, ce différend ?
Grosso modo, il y a deux façons de procéder. Il y a la proposition qui est faite par un certain nombre d'universitaires et de chercheurs européens qui ont inspiré Google et Apple, qui est ce qu'on appelle une application décentralisée, c'est-à-dire pour éviter tout risque de surveillance de masse ou tout risque de... On va envoyer, quand quelqu'un se déclare positif, en fait, son identifiant, ce qu'on appelle l'identifiant, le crypto-identifiant pseudonymisé, c'est-à-dire c'est pas son nom, son prénom, c'est une suite de chiffres qui ne permet pas normalement de remonter à sa véritable identité, est envoyé sur les téléphones portables de tous les utilisateurs. Et donc, ça permet aux utilisateurs de savoir s'ils ont été des cas contacts, des personnes au contact de quelqu'un qui a été contaminé. A contrario, dans la version française et la version britannique, ils estiment que c'est préférable de centraliser sur un serveur central les identifiants de toutes les personnes qui ont été des cas contacts. C'est-à-dire, d'un côté, on envoie dans la version Google, Apple et décentralisée, on envoie les crypto-identifiants pseudonymisés dans les téléphones portables de tout le monde. Dans la version française et britannique, ce sont les crypto-identifiants pseudonymisés de tous les utilisateurs qui sont remontés sur un serveur central qui permet d'identifier ceux qui sont des cas contacts. parce que la France estime que pour sécuriser le dispositif, c'est préférable de pouvoir demander aux ingénieurs et chercheurs en cybersécurité de l'ANSSI de pouvoir auditer un serveur central, parce qu'on peut pas auditer tous les téléphones portables de tout le monde. Donc il y a d'un côté des gens voilà qui estiment que il faut plus faire confiance à l'État, de l'autre côté des gens qui estiment que il faut plus diluer la confiance dans tous les téléphones portables de tous les utilisateurs.
Dernière question, Jean-Marc Maninck. Le protocole qui avait été proposé par Apple et Google, qu'en pensez-vous? Est-il véritablement dangereux? Parce qu'on soupçonne ces grandes entreprises de vouloir s'emparer de nos vies privées.
Non, alors il n'est pas dangereux dans ce sens-là, au sens où c'est juste un protocole qui est proposé au gouvernement, aux autorités sanitaires, et ce sont des applications qui seront sous la responsabilité des autorités sanitaires. Donc les identifiants ne remontent pas à Google et Apple. Donc il faut arrêter la peur de la surveillance par les GAFA. L'avantage du protocole de Google et Apple, c'est que ça permet d'améliorer l'interopérabilité entre les iPhones et les Android, et ça permet de lever le problème du Bluetooth en tâche de fond. Donc l'application française et britannique, ils auraient trouvé un truc il y a deux jours qui permettrait de faire tourner l'application même en tâche de fond. Sauf que c'est un truc, alors que la proposition de Google et Apple, c'est qu'apparemment ils vont mettre en place un dispositif qui permettra que ça fonctionne même en tâche de fond et donc que l'application fonctionne. Donc
là, alors, en quelques mots vraiment, Jean-Marc Maninck, pourquoi dans ce cas-là ne pas se saisir de cette plateforme Google-Apple?
Parce que en France, le ministre Cédrico a expliqué que c'est une question de souveraineté, que la question ne se posait pas. À partir du moment où il y a Google et Apple, c'est un problème de souveraineté, donc il faut faire confiance à l'État. Donc ils ont décidé, avant même de comprendre ce que proposaient Google et Apple, ils ont décidé de fermer la porte.
Donc merci beaucoup, Jean-Marc Maninck. Merci beaucoup, Jean-Marc Maninck, pour vos explications. Je rappelle que vous êtes journaliste à Next Impact.